Steve Fortin de MinuteTech.info, bonjour.
Bonjour.
Salut.
On a souvent dit que les Simpsons avaient réussi à lire dans l'avenir pour l'actualité particulièrement. Et c'est vrai, c'est le fun de regarder les parallèles, mais tu nous as trouvé des films qui ont réussi à lire dans l'avenir pour des inventions qui allaient un jour voir le jour.
Oui, exactement, pour la technologie. Justement, avant de partir en vacances, Fred m'a fait une demande spéciale pour un texte. Il dit ça serait le fun si on parlait de choses, de films qui sont aujourd'hui vrais. Fait que j'ai fait des recherches.
Qu'il y a des affaires flyées qui sont sorties il y a 10, 15, 20, 30, 40 ans, qu'on appelait ça des films de science-fiction. Puis tu regardes ça aujourd'hui, puis tabarouette, on est dedans. Bon, est-ce que les taxis volants du cinquième élément sont arrivés? Pas encore, ça arrivera éventuellement. Mais il y a des trucs quand même, que ce soit l'intelligence artificielle ou la surveillance du peuple, on est aux portes de ça dans certains cas.
Ben exactement. Puis j'ai fait une tournée de films. Il y en a beaucoup dans les années 50, des films de science-fiction qui ont des trucs qui aujourd'hui sont dans la vie quotidienne. Mais sauf que je me suis limité à partir des années 60. Parce que là, j'avais vraiment des films comme Metropolis des années 20, des années 50 et compagnie. Mais là, je suis parti de 1960. J'ai dit 1960 à aujourd'hui, on va vérifier qu'est-ce qu'il y a comme films qui se sont avérés, qui ont fait des prédictions, qui se sont avérés le plus vrai. Puis le premier, c'est vraiment un classique, c'est un chef-d'œuvre. C'est un peu lent comme film. Ceux qui l'ont déjà vu se sont probablement endormis dessus. Mais c'est un chef-d'œuvre au niveau technologique, c'est un chef-d'œuvre au niveau visuel. C'est 2001, Odyssée de l'espace, le film de Stanley Kubrick de 1968, qui est incroyable au niveau des effets spéciaux. On regarde ce film-là aujourd'hui, il est disponible en 4K, donc vous l'écoutez sur une télé moderne, puis le film n'a pas pris une ride. C'est vraiment un film qui est incroyable au niveau technologie, puis au niveau prédiction, la manière que Kubrick a travaillé, a cherché les technologies qu'il allait avoir dans l'avenir... Il a misé très juste parce qu'on voit un iPad, carrément un iPad avec une interface graphique, puis la manière qu'il regarde ses nouvelles dessus, c'est en mode portrait, puis il y a des boutons en bas tactiles. C'est vraiment identique comme un iPad. Quelqu'un qui écouterait ce film-là aujourd'hui, puis qui se dirait, tu sais, c'est un film d'aujourd'hui, il penserait que c'est un iPad bien normal, c'est une tablette bien normale, mais c'est vraiment...
Et là, attention, là, c'est pas un glitch de quelques années auparavant, là, je vous le dis. Si vous connaissez pas l'œuvre, 2001, Odyssée de l'espace, c'est pas sorti en 2001. Il est sorti en 68, et déjà là, on touchait à ce qu'elle ressemblait à l'intelligence artificielle Skynet, même avant le temps.
Ben, le personnage principal, en fait, c'est une intelligence artificielle, HAL, qui est l'ordinateur principal de la station spatiale, du vaisseau spatial, qui, à un moment donné, dérape complètement. Mais l'interaction avec HAL, ça ressemble un peu à ce qu'on a aujourd'hui avec les intelligences artificielles. Mais le dérapage de HAL qui se protège lui-même pour pas être déconnecté puis qui veut tuer les humains, ben ça, c'est des... On a eu récemment des scientifiques qui ont fait les mêmes tests avec des intelligences artificielles. Puis ces intelligences artificielles-là se sont mis à mentir, se sont mis à se protéger pour pas être déconnectés. Donc, on est proche de ce qui se passait dans 2001, Odyssée de l'espace. Puis aussi, il y a une scène dans 2001, Odyssée de l'espace. D'ailleurs, j'ai mis les captures d'écran là, sur le site MinuteTech.info qu'à un moment donné, le personnage principal, il s'envole vers la station spatiale. Puis dans le vol, il écoute la télé sur des écrans 16-9 attachés sur le banc d'en avant. Pareil comme les avions d'aujourd'hui. Mais on est en 1968, là. Donc,
c'est fascinant quand même.
Oui, hein? la prédiction est vraiment impressionnante.
Et une place qui est intéressante, veux pas, la série Star Trek, c'est quelque chose qui est assez vieux dans ses premiers balbutiements. Et ils ont collé à shot pour plein de technologies qui sont arrivées dans notre quotidien pour plus tard.
Ben oui, ben Star Trek, moi je suis pas un Trekkie. Je parle pas le Klingon. Donc, j'ai fallu que... Vraiment que je pile un peu sur mon orgueil pour mettre un passage sur Star Trek. Là. J'ai jamais aimé ça, personnellement. Mais ils ont quand même prédit le téléphone cellulaire téléphone pliant, le petit téléphone cellulaire comme on avait il y a quelques années.
Il a fallu qu'ils y pensent quand même, là, avant les créateurs eux-mêmes.
Ben exactement, c'est dans les années 60. Mais l'inventeur du téléphone cellulaire, en 1972, l'ingénieur de chez Motorola, a dit qu'il s'est inspiré de Star Trek pour faire le premier téléphone cellulaire. Donc, parfois, la science-fiction donne des inspirations aux inventeurs d'aujourd'hui pour se pousser pour faire des appareils puis des technologies. Puis Star Trek, il y a de la traduction, un peu comme Google Translate. Il y a... des commandes vocales interactives. Il y a même l'impression 3D. J'ai trouvé qu'il faisait de l'impression 3D dans Star Trek. Ouais. Donc, il y a le fameux iPad, la tablette, ça, on le voit dans plusieurs films de science-fiction. Puis c'est ça, mais Star Trek, ça couvre vraiment un large spectre. Ça va jusqu'au début des années 2000, donc ça a duré quand même longtemps. La série a duré quelques années, la série originale, mais il y a eu des séries par la suite, il y a eu des films. Donc, c'est une série qui couvre très large au niveau technologie.
Allons maintenant vers Retour vers le futur 2, qui se projetait dans les années 2000. Et encore là, il y a des choses qu'on vit aujourd'hui qui sont, somme toute, assez normales, qui étaient déjà intégrées dans ce film-là.
Ben dans Retour vers le futur 2002, le Retour vers le futur 2, ça se passe en 2015. Donc, les technologies qu'on voit dedans, lorsque Marty voyage dans le futur, puis qu'il se ramasse dans sa maison du futur, ben il y a le fameux écran plasma sur le mur, qui est vraiment format rectangulaire, format 16:9, un écran plat. La vidéoconférence, parce que le Marty du futur, il fait une vidéoconférence avec son patron. Les lunettes connectées, la domotique, les maisons intelligentes. Il y a aussi une identification par empreinte digitale. Sauf que il y a quelque chose que dans Retour vers le futur 2 qu'aujourd'hui, on n'a pas, puis on n'aura pas avant plusieurs années. C'est la fameuse voiture volante que dans tous les films de science-fiction, on a la voiture volante, mais c'est pas prêt de se réaliser encore.
Dans ton texte aussi, tu parles du film Rapport minoritaire. J'ai vraiment aimé ce film-là, puis je me questionne à savoir qu'est-ce que tu as inclus, parce que là-dedans, on allait prédire des crimes qui allaient se faire. On n'est pas encore rendu là, à ma connaissance.
Non, bien, là-dedans, il y a les interfaces au niveau tactile, les interfaces comme virtuelles. Ça, on en a de plus en plus, de ces types des claviers virtuels qui sont pas physiques. Donc, ça, on en voit de plus en plus. Mais sauf que ce qui m'a fait penser à ce qu'on a aujourd'hui, mais dans Rapport minoritaire, c'était des humains qui faisaient des prévisions, là, des genres de druides qui faisaient des prévisions. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, on est capable de faire du prédictif par le suivi des données, par les données, le suivi, l'identification faciale. Ça, c'est toutes des choses qu'on a aujourd'hui au niveau de la vie privée. Ici, au Canada, on n'est pas si pire, mais si on va en Chine, par exemple, chaque personne est traquée partout où est-ce qu'il va. La reconnaissance faciale, chaque personne a une note qui va faire que tu vas pouvoir voyager, que tu ne pourras pas voyager. Chaque personne est identifiée, ses réseaux sociaux, tout ce qu'il fait sur Internet est vraiment identifié, vraiment mis dans un fichier. Donc, on est capable de prédire s'il va y avoir des crimes par cette analyse de données massives-là. Tandis qu'aux États-Unis, il y a des compagnies comme Palantir, je ne sais pas si vous connaissez cette compagnie-là,
non,
qui appartient à Peter Thiel, un des fondateurs de PayPal. Palantir a des bons contrats avec l'armée américaine puis le gouvernement américain. Puis c'est une compagnie qui est spécialisée dans l'identification des gens au niveau avec des caméras, avec des bases de données massives qui sont capables de justement faire de la prévision d'événements. Donc, ils vont être capables de prévoir si quelqu'un peut commettre un crime ou si quelqu'un a un comportement déviant, juste par l'identification sur les caméras de surveillance puis dans ce qu'il fait sur les réseaux sociaux et les bases de données.
Le film est en 2054. Est-ce qu'on peut dire qu'on a de l'avance sur la fiction dans ce cas-là?
Bien, peut-être un peu, mais en 2054, je suis persuadé qu'il va y avoir du crime, de la prévision de crime de manière très précise.
On ne peut pas passer sous le silence tous les soubresauts, que ce soit par le film ou le livre, de 1984. Et même encore aujourd'hui, lorsqu'il y a des débats en lien avec la surveillance, cybersurveillance, la manipulation, il y a toujours quelqu'un qui va citer 1984. C'est George Orwell, si je me souviens bien.
Ouais.
Je me souviens qu'au cégep, on me l'avait imposé comme lecture. Je pense que je l'ai en cassette à quelque part. Je ne l'ai même pas écouté encore. En quoi ce film-là est autant marquant par rapport à certains référents d'aujourd'hui?
Dans 1984, c'est le fameux Big Brother qui surveille tous les habitants, qui a une main mise sur toute la population. Puis sur les nouvelles, sur tout ce que la population peut consommer comme information puis comme échange. Puis 1984, ce qui nous fait penser un petit peu, c'est la dystopie de 1984, ce qui nous fait penser à ce qui se passe un petit peu actuellement aux États-Unis. Aux États-Unis, les réseaux sociaux, les grands réseaux sont de connivence avec le gouvernement Trump. Donc, la diffusion des fausses nouvelles, les réalités alternatives à la Trump, ben ça, on voit ça dans 1984, des méthodes pour manipuler la population. C'est ce qu'on voit dans 1984, puis qu'est-ce qu'il y a actuellement aux États-Unis. Ça ressemble pas mal à ça. Mais au niveau technologique, c'est sûr que les technologies de surveillance, les réseaux sociaux, c'est ce qu'on voit un peu dans 1984, puis le fameux Big Brother aussi, qui est vraiment le gouvernement qui contrôle certains réseaux sociaux. Où est-ce que la population est accrochée à ça?
Ne serait-ce qu'en Chine aussi, où on contrôle les recherches que les gens peuvent faire, par exemple, là, ça fait penser beaucoup à ça.
Oui, exactement. Il y a des pays que c'est difficile d'avoir accès à un Internet libre, comme justement la Russie, la Chine.
La Corée du Nord.
La Corée du Nord, c'est un bel exemple. Mais il y a d'autres pays qui bannissent certains services Internet ou certains mots clics qu'on peut rechercher sur Internet.
Ben, j'ai pensé à toi la semaine passée. En Russie, on a criminalisé certaines recherches.
Hein?
Ouais. Ben oui, littéralement. Tu fais des recherches sur LGBT, mettons, il y a un flag qui s'en va, paraît-il, et tu peux avoir une amende. Puis là, les experts disent, c'est surtout les gens qui sont déjà fichés, déjà suivis pour être révolutionnaires qui vont être dans la mire des autorités, là. Mais quand même...
Ben ça, des cas comme ça aux États-Unis, après les attentats du 11 septembre, justement, le gouvernement américain avait mis en place des systèmes de surveillance qui faisaient que s'il y avait certains mots téléphoniques au téléphone qui se disaient, ça déclenchait certaines choses. Mais au Canada, il y avait des rumeurs que c'était la même chose. Mais
on avait entendu ça. Il y a des gens qui étaient haut placés à l'époque qui avaient dit que même dans des discussions sur Internet, il y a des drapeaux qui peuvent se lever. Steve Hollywood, la semaine passée, nous disait qu'au Canada, on est protégé contre ça. Qui dit vrai rendu là?
C'est ça, mais aux États-Unis, on le sait que ça se fait. Mais au Canada, c'est comme flou. Il n'y a pas de preuves véritables de ça. Mais c'est quand même épeurant là, de voir que l'espionnage comme ça de la population dans des pays qui sont soi-disant libres.
Steve, merci beaucoup. Tu as d'autres exemples également.
Oui.
Minutetech.info pour consulter ça. Gros travail, merci.
Plaisir.
Salut. À la semaine prochaine, midi 38. On s'arrête quelques instants et au retour, les devoirs, les leçons, on l'a abordé la semaine passée, ça fait beaucoup réagir. Et le dossier s'est poursuivi dans les médias de Québécois en fin de semaine. Et là, c'est la rentrée. On parlait en ouverture à 11h de la réalité de se lever à l'heure, de se coucher plus tôt, de faire les lunchs. Mais il y a toute l'intégration des devoirs et des leçons le soir qui est de plus en plus difficile. Il y en a qui l'ont abandonné avec scepticisme au départ, puis se rendent compte après coup que finalement, c'était la solution, c'était la chose à faire. On en parle dans quelques instants.
95.7 Kick, Saguenay, midi pile. On revient tout de suite après la pause. Le PM, votre émission régionale.